Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce vendredi soir, 6 novembre 2020. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal, suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Restez avec nous. Peu importe les résultats des élections américaines, le prochain gouvernement américain se rendra au peuple iranien, a fait savoir le président iranien. Un gazoduc a explosé jeudi dans la province irakienne de Bassora et à Djibouti, le gouvernement et le ISR organisent une étude sur les réfugiés. C'était les titres, en voici le journal. S'exprimant lors d'une réunion d'inauguration de nouveaux chantiers tenus le jeudi 5 novembre à Téhéran, le président iranien Hassan Rouhani a évoqué l'élection présidentielle américaine. Peu importe les résultats des élections américaines, le prochain gouvernement américain se rendra au peuple iranien. Il n'a d'autre choix que de s'incliner devant la loi, la pression de l'opinion publique et la résistance de notre grande nation. Notre nation a pu résister face à la crise de coronavirus, aux pressions et aux sanctions exercées par les États-Unis et a pu se tenir debout et nous pouvons être le vainqueur ultime. L'une des épreuves, c'est ce que nos projets et chantiers n'ont pas été arrêtés malgré les sanctions, ce qui montre que notre nation ne cède pas aux pressions et que nous pouvons réussir face aux ennemis et les forcer à respecter les lois et les réglementations. Le président iranien Hassan Rouhani a également déclaré le mercredi 4 novembre lors d'une réunion du cabinet que Téhéran voulait que Washington revienne aux pactes internationaux et respecte la nation iranienne. Quel que soit l'individu ou le parti politique qui accède au pouvoir à la Maison-Blanche, les individus et les partis politiques n'ont pas d'importance pour nous, mais c'est plutôt l'approche que le prochain gouvernement américain adoptera qui compte. La situation changera si les États-Unis lèvent les sanctions, écartent les menaces, commencent à respecter l'Iran et remplissent leurs engagements liés au plan global d'action conjoint au lieu de renier leurs engagements et d'enfreindre la loi. A fait savoir le président iranien avant de poursuivre que ce sont les principes, les méthodes et les politiques qui sont importants pour Téhéran. Le président iranien a également souligné que la République islamique d'Iran avait toutefois élaboré des scénarios pour faire face aux États-Unis s'ils refusent de s'orienter dans une bonne direction. Si les Américains comprennent qu'ils doivent changer de cap, tant mieux. Sinon, nous avons déjà pris nos décisions sur la manière de diriger le pays dans des circonstances difficiles, a-t-il conclu. Des blindés et du matériel militaire ont été envoyés depuis la base opérationnelle de la 16e division blindée iranienne déployée dans la province iranienne de Razvin en direction des zones frontalières du nord-ouest de l'Iran en présence du commandant adjoint de l'armée de la République islamique d'Iran et de responsables provinciaux. En allusion au rôle des forces armées qui consiste à assurer la sécurité du pays, le commandant adjoint de la logistique de la force terrestre de l'armée de la République islamique d'Iran, le général de brigade Hassan Alipour, a déclaré que la sécurité des frontières et le confort de la nation iranienne étaient la ligne rouge des forces armées de la République islamique d'Iran qui ne ménageraient aucun effort pour préserver ces deux paramètres. Le cas échéant, les forces armées iraniennes se précipiteront immédiatement vers le champ de bataille, a-t-il fait savoir. En Irak, un gazoduc a explosé jeudi 5 novembre dans la province de Bassora, selon les sources sécuritaires. Un responsable des services de sécurité irakiens a confié, sous l'anonymat, au site d'information Baghdad Today, qu'une explosion avait eu lieu dans une partie d'un gazoduc qui traversait la localité d'Al-Radha, dans la province de Bassora. 5 ouvriers, pour certains des ressortissants chinois, ont été blessés. La source a ajouté que l'explosion s'était produite pour des raisons techniques. Restons en Irak, dont le bloc parlementaire Al-Fatah a annoncé que les accords signés avec l'Égypte et la Jordanie signifiaient un rapprochement vers l'axe américano-israélien et la normalisation avec Israël. Al-Fatah s'est également opposé à l'abandon par le gouvernement d'Al-Kazemi de l'accord qui était signé entre l'Irak et la Chine. Al-Kazemi fait basculer l'Irak dans l'inconnu et ses politiques favorisent l'effondrement de l'économie et de la politique extérieure, a déclaré Samer Zabian, député du bloc Al-Fatah. Il a ensuite critiqué la décision du gouvernement de se retirer des accords déjà signés avec les grandes entreprises chinoises et de conclure ensuite des accords avec l'Égypte et la Jordanie, étant largement incapable de participer à la construction de l'Irak. Ce qu'a fait le gouvernement d'Al-Kazemi s'inscrit dans le cadre de ses tentatives destinées à rejoindre l'axe américano-israélien et baliser le terrain à une normalisation. Mais le Parlement ne permettrait jamais que cela se produise, a-t-il indiqué. La semaine dernière, le gouvernement irakien a signé un accord de coopération avec l'Égypte dans les domaines de la reconstruction, des infrastructures et de l'éducation. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Mme Maria Zakharova, a affirmé jeudi que les mesures économiques américaines et occidentales imposées à la Syrie y rendent la situation plus difficile et y entravent la reconstruction et l'octroi de l'aide aux citoyens. Dans un point de presse, Mme Zakharova a précisé que les préparatifs de la conférence internationale sur les réfugiés s'achèveront prochainement, soulignant le grand intérêt qu'accorde la Russie à cette conférence et son invitation des pays de la région et des organes principaux aux Nations Unies à répondre positivement aux invitations adressées par le gouvernement syrien pour assister à cette conférence et participer à ses travaux. Zakharova a également indiqué que Moscou se préoccupe des attaques menées par le réseau terroriste Daesh dans la région syrienne d'Azira, la présence de certaines cellules terroristes dormantes dans l'est et dans le centre de la Syrie et des pratiques de la milice des FTS soutenues par les États-Unis. Une économie en profonde récession, un rebond moins fort que prévu et des dettes qui s'envolent. L'épidémie de coronavirus s'avère désastreuse pour la zone euro, selon un bilan établi jeudi 5 novembre par la Commission européenne qui n'entrevoit pas de retour rapide à la normale. Dans ses dernières prévisions économiques, l'exécutif européen anticipe une chute de 7,8% du produit intérieur brut PIB de la zone en 2020. Cette récession est un peu moins grave que les moins 8,7% anticipés cet été, mais le rebond espéré l'an prochain, plus 4,2%, devrait aussi être beaucoup moins fort que le chiffre de 6,1% initialement prévu. En cause, la seconde vague de la pandémie de coronavirus qui anéantit nos espoirs d'un rebond rapide, a expliqué le vice-président de la Commission. La Commission européenne anticipe pour l'instant que l'économie reviendra à peine au niveau pré-pandémique en 2022. Mais elle souligne que le degré élevé d'incertitude qui pèse encore sur l'économie fait courir des risques de détérioration de ses perspectives et elle penche plutôt pour un retour à la normale en 2023. Ouvrons la page de l'actualité africaine. Djibouti a validé jeudi une étude de profilage des réfugiés et des demandeurs d'asile pour leur offrir une meilleure aide sociale. Initiée par le ministère des Affaires étrangères et des Solidarités, cette étude, organisée avec le concours de l'Union européenne et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ICER, vise à établir un profil socio-économique des réfugiés et des demandeurs d'asile et à déterminer leurs besoins alimentaires et non alimentaires en vue de leur intégration dans le système djiboutien d'aide sociale et de santé. Nous considérons l'accueil des réfugiés comme une partie intégrante de nos traditions d'accueil et une volonté d'offrir à ces hôtes de nos pays voisins les conditions d'une inclusion socio-économique digne et durable à Djibouti, a affirmé la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mouna Ousmane Aden, dans un discours prononcé lors de la cérémonie de validation de cette étude. Le chef de la délégation de l'Union africaine à Djibouti, Bernard François, a indiqué que la validation de cette étude permettra de concrétiser cette volonté politique visant à ce que les réfugiés et les demandeurs d'asile puissent bénéficier des mêmes acquis sociaux que les ressortissants djiboutiens. Au Mali, s'est ouvert le jeudi à Niono un forum sur la réconciliation intercommunautaire. Quatre ministres avaient fait le déplacement dans cette ville de la région de Ségou, dans le centre du pays. Et plusieurs centaines de personnes ont été invitées à participer aux discussions qui ont pour but d'apaiser les tensions entre les différentes communautés du cercle et notamment les chasseurs traditionnels de Zos d'un côté et l'ethnie Peul de l'autre. Les ministres de la Réconciliation nationale, de l'administration territoriale, de la sécurité et de la santé ont fait le déplacement à Niono. Les participants attendent avec impatience que les travaux débutent véritablement. Aucun programme précis n'a été communiqué et ce forum a été, selon plusieurs participants, organisé de manière précipitée. Tous veulent cependant croire qu'il ne s'agit pas seulement d'affichage et que les discussions qui se concluront finalement samedi permettront de sortir du cycle de la violence. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Iran, cité balistique, s'automatise. Dévoilé en présence du commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, le nouvel engin porteur de missiles balistiques réduit considérablement le temps nécessaire à la préparation et au lancement des missiles. Le nouvel acquis du CGRI, alias la mitraillette balistique, est en effet un engin qui tient au vertical les missiles, à titre d'exemple, les missiles de type EMAD, après le ravitaillement et la préparation au tir. L'engin déplace ensuite les missiles installés dans les plateformes, tout particulier sur un réseau de rails avant de les déposer sur leur rampe de lancement. Ce système de REL raccourcit de façon significative le temps nécessaire à la préparation au tir des missiles balistiques, notamment ceux à combustible liquide. Mais pourquoi cet engin porteur de missiles s'avère si utile pour le déploiement des missiles à combustible liquide? En comparaison avec les missiles à combustible solide, les missiles à combustible liquide ont besoin d'un temps de préparation plus long et une fois ravitaillés, ils doivent être prestement tirés avant que leur combustible ne soit automatiquement évacué. En revanche, les missiles à combustible liquide peuvent être stockés pendant plus longtemps et dans des conditions sûres. Donc, un missile facile à stocker qui peut être rapidement préparé grâce au système porteur à REL représente un atout plus qu'important pour le CGRI. Le trajet parcouru par les missiles balistiques n'a pas été conçu pour la transportation à l'horizontale des missiles. Reste à savoir si ce trajet a été conçu et fabriqué après la production de l'engin à REL ou si l'engin porteur n'est pas un nouveau produit mais seulement un produit fraîchement révélé. La deuxième possibilité nous laisse arguer que le corps des gardiens de la révolution islamique dispose de pas mal d'équipements militaires qui n'ont pas encore été dévoilés au public mais qui surprendront les ennemis en temps opportun. ce nouvel équipement n'est pas seulement un porteur, mais aussi une rampe de lancement mobile. Cela signifie qu'une fois arrivé devant le trou aménagé dans les villes balistiques souterraines, les missiles n'ont pas besoin d'être transférés sur les rampes et sont d'ores et déjà prêts à être tirés. La mise en garde du commandant en chef de la force aérospatiale du CGRI, le général Amirali Hajizadeh, renvoie à la toute dernière surprise du CGRI, la mitraillette balistique. Le commandant en chef de la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique a souligné que les ennemis rencontreraient un salve de missiles iraniens au cas où ils commettraient la moindre erreur. Que nos amis sachent bien qu'en cas de la moindre erreur, ils rencontreraient un lourd salve de missiles, a-t-il écrit sur son compte Twitter simultanément au dévoilement de la mitraillette balistique. Il est à noter que le système de lancement de missiles balistiques à longue portée du CGRI est en automatique et intelligent, assure un tir lourd et continu, ce qui constitue une initiative inouïe dans le monde.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce mercredi 4 novembre 2020. Aux États-Unis, le duel reste toujours extrêmement serré entre les deux candidats à la Maison-Blanche au lendemain des élections présidentielles américaines. Donald Trump a plongé en effet ce mercredi les États-Unis dans l'inconnu en se déclarant vainqueur de l'élection présidentielle alors que le décompte se poursuit, une déclaration qui a suscité une contre-attaque immédiate de son adversaire Joe Biden en position plus favorable pour l'emporter. Dans ce contexte, en effet, le spectre de longues journées d'incertitude et d'approbataille judiciaire entre désormais les États-Unis, déjà secoués par des crises sanitaires, économiques et sociales d'ampleur. En ce qui concerne le positionnement de la République islamique d'Iran, dans un discours, le leader de la révolution islamique hier a souligné que la politique de l'Iran ne changerait pas à l'égard des États-Unis après les élections présidentielles dans ce pays. L'honorable Ayatollah Khamenei a souligné que le système politique américain subit un grave déclin, peu importe qui arrive au pouvoir dans ce pays. Il a également souligné que l'hostilité de Washington à l'égard de la nation iranienne ne peut être levée car la nation iranienne ne, en effet, se rendra jamais à la volonté américaine. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ce déclin, justement, du système politique américain et la réaction de la République islamique d'Iran au scrutin aux États-Unis, mais aussi les conséquences, en effet, de ces élections au moment où, justement, les États-Unis traversent une grave crise politique, sociale, sanitaire. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
L'ayatollah Khamenei, guide suprême de la révolution islamique, a évoqué ce mardi, à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du grand prophète de l'islam, le très vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, ainsi que celle du sixième imam chiite, le vénéré Jafar Sadr, béni soit-il, la naissance d'une personnalité dont la prophétie constitue de loin l'un des événements les plus marquants de l'histoire de l'humanité. Or, cette naissance bienheureuse coïncide cette année avec un autre anniversaire, le 13 Aban du calendrier iranien, 3 novembre, jour où les étudiants iraniens ont capturé l'ambassade US à Téhéran, et ce, peu de temps après la victoire de la révolution islamique. Et de renchérir, ils créent des bases, ils déclenchent des guerres, ils occupent des pays entiers en puissance hégémonique absolue qu'ils sont. Or, l'ennemi de l'islam, son principal ennemi, est cette Amérique hégémoniste. Cette arrogance mondiale socialiste qui se bat contre l'islam avec tout ce qu'ils ont à leur disposition et sur tous les fronts. Le dernier épisode de cette guerre est ce qui s'est produit la semaine dernière en France. Cette affaire n'est pas seulement celle d'un caricaturiste qui commet un outrage et offense le prophète de l'islam, c'est bien plus. Il existe des mains qui agissent en coulisses, d'où le soutien qu'apporte à ce caricaturiste tout un État, son président et ses dirigeants. L'enjeu dans cette affaire est la politique d'un gouvernement. Le guide suprême de la révolution islamique a évoqué ensuite la présidentielle américaine. La politique iranienne à l'égard des États-Unis est claire, précise et calculée. C'est une politique qui ne change pas si les directions changent aux États-Unis. Qui sera le prochain président des USA? Cela n'influera en rien sur notre politique. Je le dis bien souvent, l'Iran devra se renforcer, notre nation, notre pays devront développer leurs capacités et c'est à ce prix qu'ils vaincront l'ennemi. Et qu'on se le dise, notre nation a superbement résisté.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Bruxelles avec Luc Michel, géopoliticien, et depuis Damas avec Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique. Monsieur Develet, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et bonjour à Monsieur Michel.
L'actualité internationale largement dominée par alors les élections présidentielles aux États-Unis et bien plus encore, c'est justement des accusations de part et d'autre. Hier, dans un discours, le leader de la révolution islamique avait souligné que justement les États-Unis traversent, en ce qui concerne leur système politique, un grave déclin, une grave crise, et que justement ces élections révélaient au grand jour la vraie nature de la libérale démocratie américaine. Qu'en pensez-vous, Maître Develet?
Bien, j'aurais plutôt tendance à être d'accord avec cette déclaration, dans le sens où, aux États-Unis, nous assistons à une espèce de lutte interne au sein de l'oligarchie, en ce qui concerne pas vraiment la vision stratégique du pays en tant que sa perception de lui-même, mais plus en termes de tactique et de gestion au jour le jour. On a d'un côté, si vous voulez, un clan qui est plutôt dans cette conception du monde, du pays-monde. C'est la version un peu clintonesque que Joe Biden en fait représente. Hein. On a une généalogie politique assez déterminée. On pourrait, comme quelqu'un que je respecte et qui a bien compris les institutions américaines, un paradigme deleucien, hein, après les frères Dulles. Et puis de l'autre, on a effectivement une espèce de non-conformisme que représente Donald Trump. Bon, Donald Trump est le nom en tout cas, qui lui voit les choses, en tout cas véhicule cette espèce de fronde en interne qui porterait à laisser entendre que les États-Unis doivent recentrer, si je puis dire, leurs opérations et arrêter peut-être d'avoir ce messianisme comme politique étrangère et revenir à des fondamentaux, à savoir plutôt Brzezinski, hein. Parmi les sept points qui définissaient la doctrine Brzezinski, c'est si vous allez par exemple déclencher une guerre, quels sont les buts politiques de cette guerre et vous donnez-vous les moyens de la gagner sur le terrain. Or, depuis une vingtaine d'années, on s'aperçoit que la politique qui a été mise en place au niveau de la politique étrangère est une politique qui semble n'être basée que sur des conflits qui permettraient, si je puis dire, de gérer ensuite le chaos qui s'ensuit, au détriment des peuples, bien sûr, qui sont eux-mêmes victimes de cette politique, avec l'idée, si vous voulez, de contrôler l'espace international au travers d'une doctrine de chaos. Voilà. Donc, c'est au travers de cette élection se joue, en fait, cette vision entre, gardons à l'esprit, une oligarchie qui n'a pas l'intention d'abandonner son emprise sur les relations internationales d'une manière, on va dire, radicalement différente de ce qu'elle a pu connaître, mais au niveau de la gestion, voilà, il y a ces deux factions, et comme on peut le voir dans le cadre des guerres culturelles que cela engendre, enfin ça je pense que c'est plus quelque chose qui a à voir avec l'ingénierie sociale qui est pratiquée aux États-Unis, on assiste effectivement à un pays extrêmement fracturé, et comme cette élection semble le laisser entendre, on s'achemine lentement mais sûrement vers une radicalisation, à mon avis, si d'un côté comme de l'autre, les institutions telles qu'elles existent, en tout cas aujourd'hui, ne semblent pas dégager un vainqueur clair et net. C'est ça le plus gros danger pour tous.
Merci infiniment pour ces éclairages. Maître Develle, restez avec nous. On va tout de suite se rendre à Bruxelles pour rejoindre M. Luc Michel, géopoliticien. M. Michel, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour à vous et bonjour à mon collègue, Maître Develle.
Quelle est votre impression de ce pays extrêmement fracturé au lendemain des élections présidentielles américaines?
Écoutez, on a un peu l'impression d'un remake de 2006. De 2016, c'est la façade de la démocratie américaine qui se prétend la démocratie avec un grand « la » que tout le monde devrait imiter. C'est en fait un régime archaïque, oligarchique. C'est un régime qui ne fonctionne plus, qui a atteint ses limites. Et les querelles entre les candidats, ce sont les querelles d'une oligarchie prédatrice. Maintenant, il y a une deuxième faillite. Et comme en 2016, c'est la faillite des médias américains. Les médias américains prétendent aussi être les parangons de la presse et de l'information. Et le tropisme anti-Trump de la plupart des médias, qui est transparent également en Europe occidentale, a conduit à ce que simplement toutes les prévisions ne se sont pas révélées, loin de là. Les sondages bidons étaient faux et nous constatons dans tout cela tout simplement que la vague démocrate qui aurait dû arriver, c'est pour le moins parler, ne s'est pas fait attendre. Maintenant, le système américain, ça ne change pas grand-chose au niveau de l'impérialisme américain lui-même. C'est un système qui s'est mis au point depuis le début du 19e siècle. C'est un système bipartisan. L'impérialisme américain, il est piloté pas seulement depuis la Maison-Blanche, mais depuis le Congrès, le Sénat des États-Unis, les services de renseignement, le Pentagone, ce qu'on appelle les vitrines légales de la CIA, l'appareil de déstabilisation des ennemis de l'Amérique dans le monde, tout ça est piloté de façon bipartisane. Pour les peuples, ça ne change pas grand-chose. On en a un exemple en Afrique, d'ailleurs. La politique africaine, elle est déterminée par un think tank tout-puissant, une pieuvre qu'on appelle l'Atlantic Council, qui trusse les postes d'ambassadeurs, de diplomates, de responsables du département d'État. Et ce sont les mêmes qui sont en fonction sous Bush 2, sous Obama et sous Donald Trump. Il y aura donc, je suis tout à fait d'accord avec la position iranienne qui dit que ça ne changera rien pour l'Iran parce que l'hostilité, elle est de nature idéologique. L'américanisme, l'idéologie américaine, qu'est-ce que c'est? C'est la prétention à être régie par une manifeste destinée, c'est-à-dire une destinée manifeste qui aurait fait des Américains la nouvelle tribu, la 13e tribu d'Israël, destinée par le Dieu américain à gouverner le monde. Lorsqu'on a une telle arrogance et une telle prétention, on ne peut évidemment pas avoir des rapports paisibles avec les autres peuples.
Merci pour ces précisions, M. Michel. Restez avec nous. Maître Develle, justement, sur alors cette déclaration d'hier du leader de la révolution islamique, selon laquelle la politique de la République islamique d'Iran ne changerait pas après, à l'égard des États-Unis après les élections présidentielles dans son pays. Donc, l'Iran a toutes les raisons, justement, de soutenir qu'il ne, en effet, se souciait guère de savoir qui deviendrait le prochain président des États-Unis parce que Alors, comme l'a rappelé hier le leader de la révolution islamique, les États-Unis sont un pays impérialiste et l'Iran a refusé, en effet, refusera toujours, bien entendu, de se soumettre à la volonté américaine. Donc, l'hostilité américaine à l'égard de l'Iran ne peut être levée. Donc, et la politique de la République islamique d'Iran à l'égard, justement, de ce pays impérialiste, de ce pays arrogant, est une position calculé, censé, bien clair. Et donc là, il n'y aura aucun changement dans le positionnement de la République islamique d'Iran.
Oui, tout à fait. Ben, de toute façon, comme l'a souligné M. Michel, ce messianisme qui caractérise la politique étrangère américaine ne soutient aucune opposition, si je puis dire, idéologique. Dès lors qu'un pays se dresse contre cette vision unilatérale du monde et qui englobe un petit peu la planète entière dans une espèce de modèle qui est fondé sur le consumérisme, l'absence de spiritualité au sens bien compris, l'individualisme forcené et surtout la transcendance qui devrait normalement être prise en compte dans toute façon de gérer une société. On ne peut qu'être témoin d'une situation de collision. À cet égard, vous ajoutez à cela que la situation a bien changé depuis la révolution islamique, que maintenant la multipolarité est en train de ressurgir. L'histoire fait son retour avec fracas. Et dans ce contexte-là, la République islamique d'Iran a beaucoup de cartes à faire valoir. Et elle a réussi, à force de persistance, de patience, de sang-froid, à survivre à un environnement extrêmement hostile jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elle ne soit plus seule, que d'autres centres de puissance maintenant sont en train de s'affirmer pour les uns ou se réaffirmer pour d'autres. Et que le constat en ce qui concerne toutes ces puissances est le même, c'est que en ce qui concerne l'hégémonie américaine, la seule solution, c'est de travailler ensemble et de coordonner, si je puis dire, une alternative à ce rouleau compresseur qui, comme votre reportage l'a bien souligné, utilise tous les ressorts, je dis bien tous les ressorts, que ce soit culturel, financier, militaire, et qui a vocation à, si je puis dire, 24 heures sur 24, de manière constante, infiltrer les pays qu'elle a considérés comme étant des obstacles à son hégémonie, afin de transformer, si je puis dire, détourner l'opinion publique, essayer de laisser entendre que la seule voie, c'est la voie impériale américaine. Et donc, dans ce contexte-là, on assiste à une situation maintenant où la République islamique d'Iran a des arguments à faire valoir et que plus que jamais, effectivement, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle en cours, plus que jamais, cette politique qui a démontré tout le succès qui fait qu'aujourd'hui, l'Iran est en mesure d'être probablement le seul pays qui ait résisté depuis des décennies à une tentative de déstabilisation de tous les instants. Le discours du leader de la République islamique d'Iran est donc parfaitement justifié et fondé sur des faits objectifs qui ne peuvent pas être mis de côté dans ce sens-là.
Merci encore, Maître Develay. Monsieur Michel, Maître Develay a rappelé l'efficacité et le succès de la politique de résistance de la République islamique d'Iran à l'égard de l'hégémonie américaine. Alors, bien sûr, avec Trump, non seulement l'Iran, non seulement les pays de la région, mais aussi même les alliés de Washington, justement, ont pris conscience, se sont rendus compte que là, il s'agissait justement d'une politique non seulement hors la loi, en contradiction avec le droit international, mais aussi une politique justement impérialiste, hégémonique et monopoliste. Ceci étant dit, alors, après ces élections, quel choix politique faudrait-il s'attendre de la part du président des États-Unis. Bien sûr, quand je parle du prochain président, peut-être, pour l'Iran, bien sûr, il n'y aura aucun changement avec justement le changement de direction à la Maison-Blanche. Mais pour justement les autorités de la Maison-Blanche, est-ce que le moment n'est pas venu pour adopter des choix politiques plus soucieux justement du droit international et plus respectueux justement des lois de l'ONU, des résolutions de l'ONU, ou encore en ce qui concerne justement l'indépendance même et la souveraineté de leurs alliés, y compris les alliés de Washington. Je parle justement des pays européens.
Écoutez, Trump, en fait, il a profondément dévié la conception même des relations internationales. Mmh. Jusque-là, le monde, il était plus ou moins ordonné avec une certaine logique. C'était le grand échiquier de Kissinger et Brzezinski. Et Trump, il a remplacé ça par ce que j'ai appelé la géopolitique des tables de poker, c'est-à-dire des coups de bluff, des bancos comme au casino. On essaye, on voit, c'est expliqué d'ailleurs dans le livre de mémoire de Trump qui s'appelle « L'art du deal ». Lorsqu'on conçoit les relations internationales comme on conçoit l'immobilier américain, ça ne peut conduire qu'à la situation actuelle. Le chaos, il est partout, il est à l'ONU, il est sur tous les continents, il est dans les organisations internationales. Maintenant, si les dirigeants américains s'étaient jamais préoccupés des lois internationales, ça se saurait depuis longtemps. Il y a toujours eu des coups de force qui ont été menés particulièrement au cours des dernières décennies. Est-ce que, dans l'hypothèse où Biden l'emporterait, mais aujourd'hui on en est loin, puisqu'on est dans une situation où les deux candidats sont de force égale et où Trump a déjà prononcé sa victoire. Si Biden devait l'emporter, il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions. Derrière Biden, ce sont les réseaux d'Obama, des Clinton, et leur mentor, le financier George Soros. Simplement, l'impérialisme américain prendrait probablement d'autres façons de s'exprimer. Mais je rappellerai quand même que ce qu'on a appelé le soi-disant printemps arabe ou le soi-disant printemps africain, ils ont été lancés par Obama et Clinton. Et en 2018, Trump, il était encore associé à Bolton, s'était contenté de lancer un super printemps arabo-africain qu'on a appelé la nouvelle politique africaine de Trump. Donc, je ne crois pas à un changement de dimension de l'impérialisme américain. Simplement, il est exact que les démocrates auraient tendance à plus ménager les alliés de l'OTAN, mais il faut encore voir, bien entendu, dans quelle mesure est-ce qu'un redéploiement de l'OTAN pourrait être véritablement conduit, je l'expliquais, par une administration démocrate qui sera limitée. Vous savez déjà que les démocrates ont échoué, ils ont conservé le contrôle de la Chambre des représentants, ils ont échoué à prendre le contrôle du Sénat. Le Sénat reste républicain et trumpiste. La grande surprise, c'est qu'en 4 ans, la base politique de Trump, elle s'est un peu ossifiée, elle s'est structurée, elle s'est organisée. Deuxièmement, vous savez que Trump a fait nommer pendant sa présidence 3 juges à la Cour suprême des États-Unis, la dernière il y a quelques jours, et pendant un quart de siècle, ces juges étant nommés à vie par une oligarchie américaine qui est régie par des règles d'ancien régime, eh bien, il ne faut pas se faire d'illusions. Les démocrates vont trouver face à eux un double mur, le mur du Sénat et le mur, évidemment, de la Cour suprême. Donc, je n'attends pas de grands bouleversements de l'impérialisme américain lui-même, même si la façon de gouverner des démocrates sera forcément plus souple que celle de Trump.
Monsieur Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, maître Arnaud Develay, juriste international et analyste politique depuis Damas. Merci infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
La voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Louange au prophète de la paix et de la clémence, le vénéré Mohammed. Que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des derniers versets du chapitre 39 du Noble Coran, la Sainte Sourate Az-Zumar, les versets 71 à 75. Avec la lecture de ces versets, nous arriverons en fait à la fin de la sourate 39 du Livre Saint. À partir de notre prochain programme, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse du chapitre 40 du Noble Coran, la Sainte Sourate Al-Ghafer, le Pardonneur. Restez avec nous jusqu'à la fin de la Voix de la Lumière d'aujourd'hui. Dans notre précédent programme, nous avons lu ensemble des versets de la Sainte Sourate Az-Zumar, dans lesquels Dieu le Très-Haut dit à son noble messager, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, de répondre aux mécréants qu'ils avaient tort de lui dire d'adorer les idoles et les fausses divinités à la place du Créateur unique des deux mondes. Dans ce bas monde, les mécréants et les pécheurs n'ont pas adoré Dieu comme il faut. Ils n'ont pas cru en sa grandeur et sa puissance. Mais au jour de la résurrection, ils verront la puissance infinie du Créateur. Quand arrivera la fin du temps, tous les vivants seront foudroyés à l'exception de ceux que Dieu épargnera. Puis les morts de tous les temps seront ressuscités. Ils reviendront à la vie et ils trouveront la terre resplendir de la lumière divine. Avant le jugement dernier, le Coran sera déposé et les prophètes seront appelés tous en tant que témoins. Puis tous les humains seront jugés avec quiétude. Chaque individu sera puni ou récompensé pour ce qu'il a œuvré, car Dieu est le plus juste et le plus équitable. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord les versets 71 et 72 de la Sainte Sourate Az-Zumar, puis nous vous en donnerons la traduction.
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين
Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe à l'enfer. Puis quand ils parviendront, ces portes s'ouvriront et ses gardiens leur diront « Des messagers choisis parmi vous, ne vous sont-ils pas venus vous récitant des versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici ?» Ils diront « Si ». Mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants. Entrez, leur dira-t-on, par les portes de l'enfer, pour y demeurer éternellement. Qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Avant que les mécréants et les pécheurs n'entrent dans l'enfer, les gardiens leur demanderont s'il n'y avait pas pour eux des messagers venus de la part du Seigneur pour les avertir afin qu'ils ne se retrouvent pas un jour devant les portes de l'enfer. Les condamnés diront que Dieu leur avait effectivement envoyé des messagers qui les avaient appelés à adorer Dieu et à se soumettre à sa volonté pour ne pas être condamnés à l'enfer dans l'autre monde. Mais qui ne les avait pas écoutés. Ces versets nous disent donc que leur condamnation au châtiment de l'enfer sera le résultat de leur mauvaise croyance et de leurs mauvais actes. Voici maintenant les versets 73 et 74 de la sourate 39 du Noble Coran.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين
Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Puis ils y parviendront. Et que ces portes s'ouvriront. Ses gardiens leur diront « Salut à vous, vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. » Et ils diront « Louange à Dieu qui nous a tenu sa promesse et nous a fait hériter la terre. Nous allons nous installer dans le paradis là où nous voulons. Que la récompense de ceux qui font le bien est excellente. » Contrairement aux condamnés de l'enfer, les pieux et les vrais serviteurs du Seigneur seront logés dans le paradis céleste et bénéficieront éternellement des bienfaits du paradis grâce à la volonté du Seigneur à laquelle ils se sont toujours soumis. Écoutons enfin le dernier verset de la Sainte Sourate Az-Zumar, le verset
75. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين
Et tu verras les anges faisant cercle autour du trône, célébrant les louanges de leur Seigneur et le glorifiant. Et il sera jugé entre eux en toute quiété, et on dira « Louange à Dieu, Seigneur de l'univers ». Les anges se rejoindront aux gens du paradis et formeront un cercle autour du trône céleste pour célébrer la grandeur du Seigneur. Chers auditeurs, ici s'achève la voix de la lumière d'aujourd'hui. Avec la lecture de ces versets, nous arrivons en fait à la fin de la sourate 39 du livre saint, la sainte sourate Az-Zumar. À partir de notre prochain programme, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse du chapitre 40 du Noble Coran, la sainte sourate Al-Ghafir, le pardonneur. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu.